France Info.
France Info e-sport avec le CIC. Faire découvrir le nouveau monde de l'e-sport, c'est ça construire dans un monde qui bouge.
Salut à toutes et à tous, c'est Yannick Agnel. Je suis très heureux de vous accueillir dans le Club e-sport, le tout nouveau podcast France Info en partenariat avec l'équipe. Alors le concept est simple, une demi-heure chaque mois ensemble. Que vous soyez déjà passionné d'e-sport ou que vous commenciez à vous y mettre, on va tâcher de satisfaire votre curiosité. Et pour ce premier épisode, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment, de ces deux belles aventures qui n'en font peut-être qu'une. Deux réussites qui se nourrissent l'une et l'autre. J'ai nommé le club de la Carmine Corp et la chaîne OTP. Casser Internet, c'est ce qu'ont fait ce champion d'Europe et ce champion du stream. 300 000 témoins, dimanche 2 mai, au soir du sacre continental de cette équipe de League of Legends et du triomphe de cette chaîne Twitch. Deux fulgurances qui, toutes les deux, n'existaient pas il y a 6 mois encore. On va en parler ensemble. Bienvenue au Club e-sport. Alors, on fait un tour de la table rapidement. Je vous présente mes acolytes, bien sûr. Emma Sarango et Paul Arrivé. Bonjour.
Salut Yannick.
Salut Yannick.
Alors Emma, toi tu es reporter à la rédaction des sports de France Info. Et Paul, tu es le journaliste référent e-sport pour le journal L'Équipe. Et évidemment, notre tout premier invité de ce podcast France Info, salut Noah, comment ça va?
Ça va super bien, merci beaucoup Yannick, très content d'être là.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es l'une des grandes voix de l'e-sport en France, l'une des deux, on va dire, avec ton acolyte Chips, commentateur de League of Legends depuis quoi, 10 ans maintenant, un peu plus?
À peu près une dizaine d'années, faudrait compter exactement, mais dans ces eaux-là, ça passe vite.
Donc tu es cofondateur d'OTP LOL, la chaîne qui diffuse presque toutes les compétitions sur ce jeu en France. Tu vas nous raconter l'aventure OTP et on va revenir ensemble sur évidemment l'incroyable succès de la K-Corp, un succès sportif mais aussi un succès populaire, Emma.
Ouais, je vais vous emmener tout de suite à la rencontre des ultras de la K-Corp, ces supporters complètement fous de leur club, donc préparez-vous à crier et à chanter tous ensemble.
Ouais, c'est un reportage qu'on va écouter dans un instant. Paul, quant à toi, tu vas nous apporter ton expertise, évidemment, et tu as une séquence rien qu'à toi, le 1v1.
Oui, ce sera un face-à-face, des questions précises, et j'attendrai des réponses précises. Noah, tu vas devoir tout me dire de la création d'OTP, des clés du succès et de votre avenir aussi.
Aïe, aïe, aïe.
Alors pour clore chaque épisode, le late game, hein, on s'est fait plaisir sur l'appellation, un autre invité qui nous rejoint, il sera souvent extérieur au monde de l'e-sport, histoire qu'on puisse croiser les regards. Aujourd'hui, face à un casteur de l'e-sport, on voulait inviter un commentateur de foot. Vous allez échanger sur vos métiers avec le plus inspirant d'entre eux, Grégoire Margoton, qui nous rejoint dans une vingtaine de minutes.
La suprématie.
Allez les gars, l'exhaust sur Oromé qui va être contre le barrage. Encore une fois de bâti. Je vous l'avais dit, que son Israël était monstrueux. La mais deuxième tourelle. La deuxième tourelle. La deuxième tourelle. C'est fait.
C'était vraiment de la folie hein, dans vos locaux. Kameto, donc on vient d'entendre le fondateur de la Carmine Corp qui exulte devant la victoire de son équipe aux EU Masters devant près de 300 000 spectateurs. C'était un moment complètement dingue. Et ils ont pas cassé de mobilier au moins.
Alors on a perdu une table. On a voilà. Il y a une table basse qui est partie. On avait aménagé un petit coin où le reste de l'équipe, donc de la Carmine Corp, pouvait se poser pour regarder les matchs. Et il y a une table basse, effectivement, qui n'a pas survécu à la soirée. Mais sinon, ça s'est extrêmement bien passé.
Alors, Paul, juste histoire qu'on se rende compte de l'ampleur de la performance, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte avec la K-Corp?
Ouais, rapidement. C'est un club qui a été fondé sous un autre nom, la Kameto Corp, il y a à peu près un an, hein, à peine. Ils ont évolué en deuxième division française l'année dernière. Ils sont montés en première division cette année avec un petit concours de circonstances. En plus, ils n'auraient pas dû y être. Ils ont été champions dès leur première année, fin mars. Et puis, ils ont gagné, là, début mai, les EU Masters, qui est à peu près l'équivalent de l'Europa League sur League of Legends, en gros, avec un engouement de fou. Ils ont, aujourd'hui, en quelques mois à peine, gagné tout ce qu'ils pouvaient à leur niveau, en fait.
Ouais, et donc, avec un succès de dingue hein, sur la chaîne OTP, on le rappelle, plus de 300 000 viewers, comme on dit, en simultané, en pic. Est-ce que tu t'attendais, Noah, à une telle déferlante?
À ce point-là, non. On savait qu'il y aurait des bons chiffres, parce que depuis le début de l'année, les chiffres sont très anormaux par rapport à déjà tout ce qu'on a pu voir. On a des audiences qui sont absolument incroyables. mais qu'on pulvériserait à ce point-là l'ancien record. Non, non, pour le coup, celle-là, je m'y attendais pas. Surtout sur un match qui était pas un format si long que ça. On s'est monté très très vite en spectateur.
Ouais, donc on parlait d'ailleurs de ce nouveau phénomène, hein, des ultras, c'est un petit peu nouveau dans l'e-sport et on va écouter ça d'ailleurs dans ton reportage.
Bah oui, parce que parmi ces 300 000 spectateurs, il y avait des ultras de la K-Corp et notamment Adam et Pizu qui ont 22 ans tous les deux, qui se connaissent mais de loin, uniquement via Twitter, qui se sont déjà jamais vus. Et donc on s'est dit pourquoi pas les faire venir se rencontrer ici à la maison de la radio au lendemain de la victoire de ce dimanche de mai. Donc j'ai retrouvé Pizu d'abord et on allait chercher Adam juste en bas ici. Donc là tu n'as aucune idée d'à quoi il ressemble Adam?
Aucune idée non, j'en ai vu certains mais non Adam je l'ai jamais vu.
Ah bah il est là. Donc voilà je vous présente Adam Pizu.
Champion mon frère.
Champion mon frère, c'est la teuf. J'ai même pas dormi dis toi.
Ouais bah moi non plus hein, c'était dur sans dormir hein. Twitter toute la nuit frère. En fait, on peut pas s'imaginer la personne, on voit nos pépés. Moi, personnellement, ma pépé, c'est Kimmich, un joueur de foot. Donc les gens, ça n'a rien à voir avec ma tête.
Bah moi, c'est le logo de la K-Corp avec un fumigène.
Mais ça fait plaisir de se rencontrer en vrai, voilà.
Il est beau gosse, même son visage, je vois pas tout parce qu'il y a le masque.
Ah ouais, hein. Adam, c'est un grand gaillard. Hein. Faites attention sur Twitter, hein. N'ayez pas de problème avec lui, il est costaud là. C'est un grand gaillard.
Voilà, donc le grand gaillard, le beau gosse et moi, on est tous les trois montés en studio. Je leur ai demandé d'abord de nous raconter eh bien, ce que c'est d'être un ultra K-Corp. Et en ce moment, Covid oblige, eh bien, effectivement, ça se passe essentiellement sur les réseaux sociaux.
En fait, moi, je vois Twitter comme un géant stade. Le stade, il est immense. Ce que je pourrais dire à l'oeil, crier dans le stade, bah, je l'écris tout simplement. Bon, par exemple, je vais marquer « Saken » ou des trucs comme ça. Voilà, je hurle. Et justement, ça permet de toucher encore plus de gens que si on était que 5000 dans une salle, par exemple.
C'est vous, le public, vous pouvez vous applaudir.
Folle ambiance, donc comme ici à Bercy, il y a 2 ans, évidemment, tout le monde espère les retrouver, ces stades, le plus vite possible pour être ensemble et surtout pour hurler les fameux chants de la K-Corp dans les stades, des chants qui sont d'ailleurs écrits par les supporters eux-mêmes, mais aussi parfois par les fondateurs de la K-Corp, très inspirés par la culture hip-hop.
C'est la K-Corp.
La fanbase est tellement énorme, tellement de viewers chez Kamel que voilà, il y avait forcément quelques artistes dans le lot, mais c'était pas pour autant gagné dès le début qu'ils s'y mettent à faire des choses. Chaque viewer, chaque fan s'est dit, je peux apporter ma pierre à l'édifice.
Juste avant de venir, j'écoutais que la win de Prime. Mais quand il y a des matchs, je les écoute et même j'aime beaucoup les entendre sur le stream d'OTP. Je me vois bien les chanter tous en chœur, en vrai, IRL.
IRL in real life, dans la vraie vie. Et Adam, effectivement, il est au taquet dans la vraie vie pour faire les déplacements dès qu'il pourra.
J'irai sans hésiter, du moment que c'est en France et pourquoi pas à l'étranger si...
Peut-être des bus Karine Corp remplis d'ultra. Il y a par exemple Vitality pour une compétition de CSGO. Justement, il y a eu des bus qui ont été mis à disposition des fans par la structure pour aller à l'événement. Donc c'est possible, hein, je pense, avec la Karine Corp de réaliser ce genre de choses. Quand on pourra tous se rassembler, j'espère, et ben on aura tous notre maillot. Par exemple, les premiers maillots, il y avait une édition collector, entre guillemets, il y avait un numéro sur le maillot. Là, moi, je me vois bien en LAN, oh, t'as le numéro combien, etc. Moi, ça va, j'ai 182, je suis bien.
Voilà, pourquoi pas trouver son voisin de maillot.
Alors, les maillots, évidemment, ça rappelle le foot et c'est pas un hasard. Adam, comme Pizu, ils sont tous les deux fans de foot depuis petit, du PSG, les deux du Barça aussi pour Adam. Mais attention, être ultra à la K-Corp, c'est pas tout à fait pareil qu'être fan de foot.
Tous les soirs de match, on envoie des messages aux joueurs et tout pour les féliciter et que le joueur nous répond. Enfin, jamais Neymar il va répondre à ton message sur Instagram, par exemple. Jamais Leonardo il va retweeter ta musique sur le PSG.
C'est vrai, ouais. C'est vrai.
Et alors que nous, il y a ça, et du coup, la proximité, on le vit à fond, comme je dis. Camille, il a gagné, on a tous gagné, en fait.
Allez les gars,
de la suprématie.
Allez les gars, l'exhaust sur Romé qui va être content. Ah, encore une fois de Bati, je vous l'avais dit.
Ouais. On s'en lasse pas, hein. Franchement, c'est incroyable. Alors moi... On a entendu dans le reportage d'Emma, ces ultras, c'est quand même un phénomène qui est nouveau dans l'e-sport.
C'était grossissant, mais je pense qu'en France, on avait peut-être jamais à ce point-là. Et on a passé un palier, mais on parlait par exemple des Ultra Fnatic, des Ultra G2, qui étaient deux grosses équipes très populaires en Europe. Et c'est vrai qu'à chacun de leurs matchs, déjà, les audiences, elles sont énormes. Et on commence, c'est peut-être les seuls matchs où il y avait des rivalités entre communautés, où vraiment, dans les chats, sur les réseaux sociaux... ça se titille plus ou moins gentiment en fonction des périodes. Mais là, avec la Carmine Corp, on a eu un raz-de-marée. Mais je sais que moi, mes réseaux sociaux, les soirs de match, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est le fameux mur bleu et je peux défiler et je ne vois que ça, perte de vue.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de profils. Il y a Pizu, par exemple, qui lui joue à LoL depuis 2014, qui est converti, etc. Et Adam, qui au contraire m'expliquait que lui, il suivait à la base Kameto et qu'en fait, il connaissait quasiment rien à LoL, même qu'il aimait pas particulièrement ce jeu et qui en fait s'y est converti, a découvert, s'y est mis. Est-ce que ça veut dire que toi, tu t'adaptes aussi à ces nouveaux spectateurs néophytes finalement?
Alors, un petit peu, on s'adapte. C'est vrai que ils nous ont offert cette opportunité d'amener une incroyable masse d'audience qui ne nous connaissait pas, qui ne connaissait pas League of Legends, qui est un jeu qu'on peut appeler, alors ça fera rire certains, mais un peu vieillissant dans notre milieu puisqu'il a maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc faire de l'acquisition de nouvelles audiences, c'est pas si facile. Et là, on s'est retrouvé avec cette gigantesque masse d'audience. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà ils ont été accompagnés par la Carmine Corp, avec qui eux ont sorti des choses explicatives, etc. Nous, parfois, on essaie d'être un peu plus didactique, mais on garde tout de même majoritairement le ton qu'on avait. On reste quand même très technique et il va falloir un peu parfois s'accrocher, je pense, pour se mettre dans le bain.
En parlant de succès, il est venu le moment de l'expliquer. Comment est-ce que vous êtes parvenu à construire OTP? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On attend des réponses sans filtre. C'est l'heure du 1v1.
Levez-vous! Vous êtes déjà debout, mais levez-vous!
Et oui, vous vous levez effectivement, car le 1v1, c'est un face-à-face. Alors, pour le coup, Noah va répondre à notre ami Paul, les yeux dans les yeux. Je fais monter la table en même temps, excusez-moi, on a des moyens à France Info. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Ça va t'inspirer pour OTP.
Mais je vois, mais alors ce sera plus manuel.
Avec un levier.
Bon allez, vous êtes prêts tous les deux, c'est parti pour le 1v1.
Alors, Noah, vous avez quitté avec Chips O'Gaming, après 10 ans chez O'Gaming, votre ancien employeur, fin 2020. Vous avez créé OTP début 2021 et vous avez rencontré un succès assez fou. Est-ce que vous vous attendiez à ça?
On s'attendait clairement pas à autant de succès. On savait qu'on allait réussir. On se doutait qu'on arriverait à construire quelque chose de bien, qui nous ressemble, et à avoir une continuité. Moi, je pensais qu'au niveau des audiences, ça resterait plus ou moins dans cette dynamique de plus 20, plus 30% par an. Mais à aucun moment, on s'attendait à pulvériser aussi vite des scores d'audience.
À l'inverse, est-ce que vous avez eu peur à un moment que ça se passe mal? Parce que forcément, on quitte quelque chose qu'on connaît vers l'inconnu.
Bien sûr, il y a eu un très grand saut de l'ange, je dois avouer. En plein Covid, on est parti avec rien, c'est littéralement. Et juste avec un groupe de personnes avec qui on se faisait confiance. Et oui, il y a eu un grand moment de peur. Surtout que les délais étaient vraiment extrêmement serrés pour tout remonter en moins de 3 mois. Surtout avec les délais de livraison qu'on peut connaître maintenant avec le Covid. Donc jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si on aurait ne serait-ce que les plateaux installés.
Est-ce que tu estimes que vous avez gagné un peu en liberté par contre, ou vous avez quand même gardé ce qui faisait votre force auparavant chez O'Gaming?
On s'est un peu retrouvé, je pense, parce que c'est vrai que 10 ans même endroit, au bout d'un moment, il y a une lassitude, il y a des habitudes, on fait plus de concessions, plus de choses, et le fait, alors je vais pas dire d'avoir un peu le couteau sous la gorge, mais pas loin en fait, le fait de se dire ben maintenant c'est marche ou crève, et de mettre tout son cœur et toute son âme dedans, et de c'est un plus petit groupe de personnes, donc c'est plus mobile, etc. Donc je pense qu'on a gagné, alors on a peut-être un tout petit peu perdu en marge de manœuvre pour l'instant, parce qu'on est encore très neuf et peut-être on n'a pas les reins aussi solides, mais c'est sûr qu'on bouge vite, on bouge très vite et on avance très vite.
Quand on voit l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui chez vous sur League of Legends, est-ce qu'on a peur d'une éventuelle concurrence, une nouvelle concurrence des TV, des médias traditionnels, ou c'est pas quelque chose auquel vous pensez aujourd'hui?
Non, je pense qu'on a une belle marge d'avance tout de même. On a tous bien rigolé derrière les dernières annonces des JO, donc... Donc ça va, je pense que le temps que plusieurs médias traditionnels arrivent à bien comprendre comment ça marche Internet, comment marchent ces audiences, pour l'instant, on a encore un peu de temps, oui.
Et les prochaines étapes pour OTP, c'est quoi? D'autres jeux, du développement en termes d'infrastructures, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vos plans?
Beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. Je peux penser à alors des trucs peut-être qui sont même pas encore en développement, mais déjà en discussion, telles qu'une appli par exemple, pour bien suivre de la compétition, du merch qui devrait arriver, développer des nouveaux plateaux aussi, parce que pour l'instant on est sur un plateau, on grossit beaucoup, on achète beaucoup de matériel pour pouvoir, on est une boîte de prod autant qu'un média, donc on développe beaucoup, on produit en barque blanche des choses pour FIFA, on produit pour Overwatch, on produit pour beaucoup de choses. Donc on a besoin de place, on a besoin de grossir, on a besoin d'engager des gens. Donc pour l'instant, voilà, c'est plateau, matériel, travaux, développement, etc.
Des nouveaux jeux ?
Des nouveaux jeux. Pour un média à part entière, pour l'instant, pas trop. Après, on travaille avec beaucoup d'autres jeux, mais notre nom apparaît peut-être un peu moins.
Et une fusion avec la Carmine Corp, c'est prévu ?
Ça nous ferait plaisir, forcément. C'est même pas sur le tapis, bien sûr. Mais je pense qu'en tant que média, on doit rester neutre. C'est le problème, c'est qu'il y a un gros conflit d'intérêts, du coup. Qui déjà qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et de liens, mais on pourrait éventuellement nous le reprocher vu comment on est biaisé, on ne va pas en rajouter.
Oui, ça arrive. D'ailleurs, on vous reproche parfois assez souvent même d'être biaisé.
Complètement assumé.
Merci.
Ben, merci beaucoup, Paul.
Bon, il est bon. Hein. Il est bon quand même. Bon. On voit que c'est un professionnel.
Non, c'est son métier.
Il y a des questions pièges qu'il ne m'a pas posées aussi, donc ça va.
En tout cas, quand tu as parlé de merch, je peux te dire que derrière la vitre, il y en a qui ont sauté de joie. Hein. Mais si on t'a invité aujourd'hui, c'est aussi pour que tu nous racontes ton métier. C'est aussi pour savoir comment tu travailles et ce qu'est véritablement le commentaire d'e-sport, tout simplement. Alors, je vais juste me permettre de baisser la table. Comme ça, on peut se rasseoir tranquillement.
Mais c'est sympa aussi, la configuration debout.
Ouais. C'est sympa, ouais. Hop, et on est reparti. Du coup, je me posais une question toute simple. Comment est-ce que tu prépares en amont tes matchs ?
Il y a beaucoup de façons différentes. On commente beaucoup, on visionne beaucoup. Déjà, il y a ce que je dis à nouveau commentateur. Il ne faut pas uniquement que tu regardes la ligue que tu es en train de commenter, il faut que tu ailles voir ce qui se passe à travers le monde. Comment ça joue en Corée, comment ça joue en Chine, comment ça joue en Amérique du Nord, parce que ça va être important, parce que si ça arrive en Europe, il faut déjà que tu sois au courant que ça existe ailleurs et que tu saches t'expliquer. Après, il y a documente-toi sur aller chercher ce qu'il y a derrière le joueur. Les interviews, les moments privés, s'intéresser au mercato. Pourquoi une équipe, on sait avant qu'elle joue qu'elle va pas être en forme ? Parce que avec un réseau, on sait plus ou moins que tel joueur, par exemple, a été malade la veille. Mais ça, il faut aller le chercher, il faut quand même un peu de connexion, il faut connaître le milieu. Donc il y a toute cette recherche autour du joueur, comprendre pourquoi le joueur va être bon, moins bon, etc. Tel joueur, il a eu un problème familial, tel joueur, il a ça, tel joueur, il s'est très bien entraîné, tel joueur, il est très fort sur ce champion. Et c'est ce champion qui va être fort au prochain patch, parce que League of Legends est un jeu qui bouge.
Et sur le plan technique, est-ce que toi, ça nécessite, par exemple, que tu sois bien classé dans le jeu, en fait ?
J'ai pas besoin d'avoir des mains pour pouvoir commenter. Après, je sais que des joueurs qui vont beaucoup mieux jouer que moi, qui vont être beaucoup plus forts, vont avoir un très large avantage sur les interactions, ce qu'on appelle micro, vraiment dans le duel entre les joueurs. Moi, je vais pas avoir de mal à bien décrire ce qui se passe sur un point de vue global et stratégique global, mais vraiment, pourquoi un joueur a absolument oblitéré l'autre en pur face-à-face. Par exemple, je peux penser à Tréton, qui est commentateur chez nous, qui est toujours dans le top 10, top 20, top 50. Lui, si j'ai une question, me dire « Bah alors, c'est fort ça ?» Je me retourne vers lui, il va me dire « Oui, là, c'est fort. »
J'ai une question à ce sujet, Noah. Comment est-ce qu'on choisit ce qu'on commente sur League of Legends ? Parce qu'il y a des moments d'affrontement où il se passe plein de choses à l'écran. Et comment est-ce qu'on se dit « Ok, c'est ça qu'il faut que je commente » et que ça aille très vite, en fait, finalement, aussi ?
Ça s'apprend. Il faut comprendre ce que je dis à généralement un commentateur. C'est quand tu sais pas quoi dire, demande-toi quel est l'objectif de chaque équipe. Qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avancer. Donc l'objectif, ça va être ça, puis ça, puis ça, puis ça. Est-ce qu'ils sont en train de le faire? Oui, non. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en train, etc. Et à côté de ça, effectivement, on travaille avec des analystes qui eux vont nous feed avec énormément de données, énormément de data pour qu'on comprenne bien quelles sont les forces de chaque joueur, chaque équipe ou sur le terrain, il y a quel moment de la partie.
Emma, tu avais une question.
Ouais, il fut un temps où le rêve des jeunes, c'était d'être commentateur sportif, commentateur de foot, d'être, on le verra peut-être tout à l'heure, le futur Grégoire Margoton. Est-ce qu'aujourd'hui, le rêve d'un jeune, c'est d'être le futur Noah ? Est-ce que vous avez beaucoup de candidatures et qu'est-ce que vous attendez des nouveaux commentateurs ?
On a pas mal de candidatures et limite, on a trop de candidateurs pour pas assez de place. Parce que, alors déjà, peut-être que l'audience générale n'est pas assez grande pour couvrir 400 heures de League of Legends. C'est-à-dire que déjà, nous, on couvre bien 90 heures par semaine. C'est gigantesque. Et puis, un match de League of Legends, ça peut durer 5 heures. Si c'est ce qu'on appelle un best of 5, c'est comme du tennis. Il y a un match de 5 heures, on regarde un match, on n'enchaîne pas avec un deuxième derrière. Donc déjà, malheureusement, je dirais que les grosses places, au moment où arrivent les gros matchs, ça va être dur de rentrer dedans. Puisque quand on va arriver à une finale de championnat du monde, il y a 3 matchs, on va pas faire commenter 25 personnes. Donc ça peut être gênant à ce moment-là. Donc il faut déjà s'accrocher et rattraper beaucoup de retard. Ce qui est très dur, parce que quand on est nouveau et qu'on arrive, nous, on a un accès très facile à toute la scène, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a un Discord où des gens se connectent pour discuter, pour jouer à des jeux vidéo. Tous les soirs, il y a au moins 3 coachs, 2 joueurs professionnels qui discutent du jeu, donc il suffit de se connecter à ce moment-là et de discuter pour apprendre énormément de choses, pour comprendre énormément de choses, et nous, on y a cet accès et peut-être pas des petits commentateurs. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup regarder, c'est beaucoup de travail.
Ok, moi j'ai une question tabloïde. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ?
Alors, moins depuis que la vie sociale et nocturne a disparu. Généralement, quand on est en fête, en bar ou en festival, ça arrive. Par exemple, j'ai fait un concert de Rammstein, il y avait beaucoup de monde qui a reconnu. Ou quand on va en festival de techno, ça arrive beaucoup. Donc c'est rigolo.
Moi, c'est une question qui reprend un peu ce que disait Emma tout à l'heure, avec l'afflux de nouveaux fans. Ça a été un défi pour vous, une question ou...
C'est pas vraiment une voie vers laquelle on veut aller. Parce que je pense que notre audience, en tout cas, s'est construite autour de cette technicité. C'est pour ça qu'ils viennent nous regarder. À la limite, on pourrait penser à faire une diffusion à côté, vraiment pour les gens qui débutent un peu plus, qui est beaucoup plus didactique. Pour les gros événements, ça peut être tenté. Sur notre première antenne, je pense pas qu'on aille vers quelque chose de plus didactique.
On parle de jeux qui évoluent sans cesse avec de plus en plus de champions à jouer, donc de plus en plus de sorts à apprendre. Est-ce que cette accumulation de connaissances, ça va pas finir par poser problème à un moment donné ?
Je pense que ça pose déjà problème. C'est déjà un savoir qui est encyclopédique.
Si je te dis le sort siphonnage, est-ce que tu es capable de me dire de quel champion ça vient ?
Wayne ?
Non.
Non, siphon. Non, je sais
c'est
plus.
C'est pas facile. C'est un champion méta. C'est un champion méta, on a
pris
des racines.
En vrai, je saurais pas dire.
C'est Victor.
C'est Victor, ouais. Moi, j'aurais dit le Q-Spell.
Ouais.
C'est ça. C'est le Q-Spell de Victor. Ouais.
Deuxième pour le plaisir.
Il y a beaucoup d'acronymes. On utilise juste la lettre du sort puisque ouais. Ça se joue sur 3 lettres.
Hein. Ouais, bien sûr. Alors, juste le deuxième pour le plaisir. L'ulti de Gnar. Comment il s'appelle ?
Oh là, aucune idée, c'est un ulti Gnar. On l'appelle Luc Tignar.
Elle s'appelle littéralement Gnar, bravo.
C'est pour le coup, quand on ne sait pas le sort, parce qu'il y a aussi le problème de c'est en français, c'est en anglais, c'est beaucoup de termes anglais. Il y a beaucoup, vu qu'il y a plus de 150 champions et à peu près 5 compétences par champion, qui changent, parce qu'en plus ça change.
Voilà, 153 champions, 612 sorts et 152 objets.
Ouais.
On avait le temps de faire un sacré quiz.
On en oublie, hein. Je peux assurer qu'on en oublie.
Ouais, forcément.
Bon, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions, hein. On en a appris un peu plus sur ton métier. C'est le moment où tu vas continuer, bien évidemment, de nous en parler, mais tu vas le faire avec quelqu'un d'autre qui a presque le même métier que toi. C'est parti pour le late game.
C'est game. Ce poteau Pavard. C'est pas fini.
Ouais, second poteau Pavard, hein, c'est lui. Bonjour Grégoire Margoton.
Bonjour, c'est le moment où l'ancien monde revient.
Commentateur des matchs de l'équipe de France de foot sur TF1. T'écoutais là attentivement derrière la vitre jusque-là. Moi, j'aurais aimé savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu aurais une question en fait à poser à Noa ?
Je vois plein de points communs quand même. Je vois plein de points communs. Est-ce que c'est générationnel ce qui leur arrive? Je pense que c'est leur génération et qu'il y en aura d'autres derrière, donc ça deviendra transgénérationnel avec le temps, comme le football et comme les sports traditionnels. Non, je pense qu'on a plein de points communs. J'ai beaucoup entendu le mot travail, préparation. C'est la même chose. Je crois qu'il est comme moi, même si c'est LOL et moi c'est du foot ou de l'athlétisme ou ce que tu veux. On raconte une histoire. Voilà, on fait le même métier en fait. On raconte une histoire qui se passe sous nos yeux. On connaît le début, on connaît pas la fin. Et notre boulot, c'est de raconter l'histoire pour ceux qui veulent bien nous accompagner et avoir des infos, avoir de l'émotion. Donc la base est la même. On a l'air très éloigné. Moi, je connais pas le monde de l'e-sport très bien, mais je regarde, mais j'écoute, je les écoute. Et je me dis qu'ils font leur truc, mais ils ont aussi été influencés d'une certaine manière par par les vieux commentateurs comme moi.
C'est un peu. C'est
plus que complètement. Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mon collègue Chips, qui lui dévore beaucoup de sports beaucoup plus traditionnels et probablement vous a énormément écouté.
Le pauvre.
et à mon avis a récupéré et ne s'en cache pas absolument pas beaucoup de choses. Effectivement, des commentateurs qui étaient là bien avant nous.
Oui, puis j'étais aussi inspiré. Je serai, j'espère, inspiré par l'e-sport. Moi, j'ai la chance de mettre ma voix sur des jeux. Alors, on n'est pas dans LOL, mais sur des jeux de simulation de foot depuis des années et des années. C'est un exercice différent de ce que je peux faire à l'antenne sur un direct avec des vrais humains. Mais ça m'a inspiré. Et puis, je passe mes journées avec des gamins qui sont sur le digital, qui ont 30 ans et qui conçoivent le métier d'une façon un peu différente de la mienne. Et ça aussi, ça m'inspire.
Tu te verrais, toi, commenter de l'e-sport?
Non, je peux pas. Déjà, j'ai pas les qualités ni la connaissance pour. Et puis, j'ai pas ce côté, je l'aurais pas en tout cas, ce côté extraverti dont ils ont besoin pour aller chercher de l'émotion et balancer une table. Moi, j'ai balancé un jour une bouteille, je pense, dans une tribune de commentateurs à un but de paillettes contre l'Albanie, je pense à l'Euro, j'ai balancé la bouteille, mais ça ira pas plus loin que ça. Mais voilà, moi ils ont un côté showman que je n'ai pas, que j'ai de temps en temps. On doit mettre de l'émotion quand tu réécoutes Pavard, t'es obligé de te lever de ton siège comme les gens devant leur télé. Le reste du temps, je suis plus dans un accompagnement descriptif, alors qu'eux, ils doivent faire vivre et enthousiasmer des 300 000 personnes sur Twitch et des milliers dans une salle.
C'est un monde qui vous intéresse quand même? Vous penchez un petit peu
mais
sur ce qui
obligé,
se passe?
Je suis obligé, j'ai un gamin de 20 ans. Enfin, j'en ai d'autres bien plus petits, mais j'ai un gamin de 20 ans qui passe ses nuits à ça. Je pense pas qu'il joue à LOL, mais il passe ses nuits à ça. Et forcément, je suis j'essaie d'être un buvard. Mon boulot dans la vie, c'est d'être un buvard depuis 30 ans. Donc ce buvard-là, j'ai pas tous les codes, mais je l'écoute. Je passe des moments à écouter. Je vais sur des chaînes YouTube, etc. Je vais écouter la façon dont ils commentent. Et j'avoue qu'il y a 5, 6, 7 ans, je me disais, oh, ils commentent exactement comme nous. J'étais presque un peu déçu. Et puis je pense qu'il y a quand même une évolution. Et puis voilà, si ça explose aujourd'hui, moi, je sais pas si vous en avez parlé, mais il y a un besoin de lien vraiment depuis un an. Et de communauté, ce côté communauté, lien, on est tous ensemble, on peut tous avoir la même émotion au même moment. Le sport traditionnel nous l'apporte plus depuis un an ou pratiquement plus. Voilà, on peut plus aller dans les stades, on peut plus rien faire. Et j'espère que ça va continuer, mais ça explique aussi pourquoi leur expression à eux a explosé depuis un an.
On a eu un petit alignement des planètes, effectivement. Oui. Alors, ça, c'est très dommage pour le sport traditionnel, mais c'est vrai que le streaming et Twitch a pris un joli petit coup de boost sur les années Covid.
Une question, Grégoire. Les ultras qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage faisaient une comparaison avec le monde du foot en disant regretter finalement la distance qu'il y a entre les joueurs de foot et leurs supporters, qui est encore très fine, enfin, qui est encore très ténue dans l'e-sport. Comment faire pour que ça reste? Est-ce qu'effectivement, ça pourrait être une des forces de l'e-sport par rapport au foot?
C'est une des forces, cette proximité-là de l'e-sport aujourd'hui. Et c'est une des faiblesses chroniques et malheureusement, je crois, installées du sport traditionnel aujourd'hui, en tout cas du football. Moi, ça fait 20 ans que je peux plus aller dans les clubs la veille, rencontrer les joueurs, alors que je le faisais il y a 30 ans et qu'on était vraiment dans une grande proximité et le public avec. Donc ça aussi, cet éloignement du foot traditionnel par rapport à son public, qui a été magnifié malheureusement dans le mauvais sens du terme, s'il y en a un, par la Covid, malheureusement on reviendra, je crois pas, en arrière. Ce que j'espère, c'est que l'e-sport prendra pas les mauvaises habitudes du sport traditionnel.
Alors justement, c'est ma question. Comment ça commence à se créer cette distance? Parce que pour l'instant, je vois très bien la scène. Nous, on a les équipes, les joueurs dans les locaux au moment où on commente. On les en interview la seconde d'après. Enfin, il y a beaucoup de proximité. Pourquoi ça s'est perdu progressivement du coup dans le foot?
Quand la communication est arrivée, quand il a fallu se dire, quand on était dans un club où là il a dit une bêtise, la prochaine fois il la dira pas parce que je vais l'empêcher de rencontrer le journaliste, etc., etc., etc. Et ça a commencé dans les très gros clubs. Ça touche pas tous les clubs. Les petites structures, aujourd'hui, oui, on peut aller à l'entraînement à Angers, à Metz, on est encore dans des clubs à taille humaine, mais les gros clubs, c'est terminé. Donc à partir du moment où il y aura de la communication, à partir du moment où votre univers sera peut-être récupéré par des grands groupes, etc., etc., il y aura un risque, évidemment.
C'est ce que j'allais dire. Si on met un peu les pieds dans le plat, à partir du moment où
où l'argent peut arriver massivement dans le milieu de l'e-sport, est-ce que ça risque pas de se footballifier du coup?
Ça a un peu commencé, parce que effectivement, quand on pense à des beaucoup plus grosses structures, la communication est beaucoup plus fermée et ça a un peu perdu en proximité. C'est d'ailleurs pour ça que la Carmine Corp, qui est un club de deuxième division, parce que c'est pas, on va dire, la Super League, la Ligue européenne, est beaucoup plus proche, était beaucoup plus proche du public français que ne peuvent l'être certains gros clubs européens dans League of Legends. Donc, en un certain sens, ça a un peu commencé.
Mais bon, à moins que vous ayez d'autres questions, Paul.
Moi, j'ai peut-être une dernière question pour Grégoire. Justement, tu parlais de la Super League tout à l'heure. Des gens comme Agnelli ou Perez ont parlé de l'e-sport à des jeux vidéo comme des adversaires, un peu d'ailleurs, dans leur justification de « on veut créer une Super League ». Vous avez l'impression que c'est un adversaire aujourd'hui ou justement c'est une inspiration?
J'ai pas analysé la chose comme toi sur... Perez, surtout moins Agnelli, Perez disait les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de 40 minutes, pas plus, et il faut qu'il y ait du rythme, etc. etc. Lui, il ne voyait pas un adversaire, il le voyait comme une source d'inspiration, j'ai l'impression, l'e-sport, Florentino Perez. Je crois qu'il s'est lourdement trompé, parce que les deux vont cohabiter. Je pense que le sport traditionnel, quand les stades rouvriront, va revenir très fort. Je pense que, par exemple, l'Euro, on parlait des audiences tout à l'heure, 300 000, c'est énorme sur Twitch, mais pas oublier quand même qu'un match de l'Euro de l'équipe de France, au minimum c'est 9, 10, 11 millions. Une finale, il peut y avoir 18 millions de personnes devant la télé qui sont pas tous fans de foot, mais ils sont fans de ce moment-là et de cette promesse-là et de ces deux heures qu'ils vont passer ensemble, en famille, dans un stade ou dehors dans un café. Donc les deux vont cohabiter. Je pense qu'ils ont oublié la dimension populaire du foot, et cette dimension populaire là, elle est revenue en pleine face et elle fait beaucoup de bien dans cette année qu'on vient de passer dans l'ancien monde.
Merci à tous les deux. Merci Noah, merci Grégoire Margoton, les premiers invités du Club e-sport. Vous avez essuyé les plâtres avec brio. Merci à vous qui venez de passer une demi-heure en notre compagnie à nous écouter. Merci bien sûr à Emma et à Paul, sans oublier notre réalisateur en régie, Thomas Langlin, alias Cassé Langloute, comme on l'appelle sur les réseaux, et notre grand Manitou, Jules de Kiss, dans l'oreillette. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode, le Club e-sport de France Info, avec le journal L'Équipe, disponible sur l'appli Radio France. Je compte sur vous pour le faire tourner, les amis, et pour nous dire sur les réseaux tout le bien que vous en pensez. À très bientôt, ciao.